Wednesday's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a half percentage point and stated...
À cette réunion, le comité politique monétaire a augmenté son taux directeur d'un demi-point de pourcentage entre 0,75 et 1%. La Fed a aussi décidé de commencer à réduire son bilan à partir du 1er juin. Guerre en Ukraine et confinement en Chine aggravent l'inflation et les problèmes de logistique. Alors, nous n'hésiterons pas à aller plus loin s'il le faut. Une hausse d'un demi-point de pourcentage est sur la table.
That additional 50 basis point increases should be on the table at the next couple of meetings.
C'était hier soir, Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. La Fed a, comme attendu, relevé ses taux d'un demi-point. Une première depuis 22 ans. Avec nous ce matin pour commenter cette décision de politique monétaire, Hervé Gouletker, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Est-ce qu'on s'y retrouve dans l'exercice d'équilibriste pour Jerome Powell? Il faut ménager la croissance, mais enrayer cette inflation.
Alors... Si on tente de répondre à la question, je crois qu'il y a deux axes. Il y a le premier axe qui est un axe d'observation. Il y a la réaction des marchés. On a eu une réaction finalement plutôt assez bonne avec une très forte hausse des marchés actions, un peu de repli des taux d'intérêt à long terme, un peu de repli du dollar. Donc le marché donne crédit finalement à la capacité de la Banque centrale américaine à calmer l'inflation sans mettre l'économie par terre. Premier point. Deuxième point, de nature un peu historique, on voit que la capacité tout de même de la Banque centrale américaine à remettre de l'ordre dans les prix sans casser cette croissance, cette capacité, elle a jamais été très forte. La plupart du temps, lorsque l'on entre dans des processus de remontée un peu marquée des taux, du taux directeur de la Banque centrale, eh bien, habituellement, ça se traduit par un repli de l'activité. Donc, on a un regard très contrasté entre la réaction des marchés et l'histoire. Ce que l'on peut dire derrière, c'est que il y a un double pari chez Jerome Powell et ses collègues de la Fed. Le premier pari, c'est de dire finalement que l'inflation certes est fort, mais qu'on serait proche du point haut. Et c'est vrai que si on regarde les prix à la production, si on regarde certains indices de prix à la consommation dans lesquels on enlève ce qui bouge le plus, on pourrait avoir cette impression-là. Mais à rebours, on doit dire qu'en matière d'évolution du coût du travail, on a l'impression qu'on est positionné dorénavant sur un niveau plus élevé qu'avant. Donc, premier pari, c'est pas complètement simple. Et puis, le deuxième pari, c'est que oui, ils vont réussir à ralentir la croissance économique. On vient d'en parler. Ouais. C'est pas un pari gagnant. Et puis, juste pour finir, il y a la question de l'incertitude qui pesera sur la réalité, qui pesera sur les décisions. L'incertitude, elle est partiellement chinoise, avec le maintien de la politique du zéro Covid. Et puis, elle est surtout russe. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la guerre en Ukraine? Eh bien, bien malin qui peut le dire. Ce qu'on a simplement envie de percevoir aujourd'hui, c'est que ça risque de durer longtemps.
Merci beaucoup Hervé Gouletker, stratégiste à la Banque Postale Asset Management, d'avoir commenté à chaud cette annonce de la Réserve fédérale. Et puis justement, vous le disiez, l'incertitude en Russie qui a pesé sur les résultats trimestriels de la Société Générale qui viennent d'être publiés. Alors le groupe a quand même réussi à maintenir son bénéfice, à le faire légèrement progresser même. 842 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, plus 3,2%. Et une hausse effectivement du produit net bancaire de 16% à 7,2 milliards. Mais effectivement, la Société Générale qui dit qu'il y aura forcément un risque plus élevé sur l'exposition à la Russie.
Mais justement, on mesure cette exposition à la Russie aussi avec le Crédit Agricole qui a fait état là d'un bénéfice net en baisse de 24% au premier trimestre, 1,33 milliard d'euros, plombé par presque 600 millions d'euros de provisions dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Le BNP Paribas avait fait quand même beaucoup mieux. Il y a deux jours, effectivement, ça sera intéressant de comparer les résultats des différentes grandes banques françaises. Et puis, Airbus, lui, alors là, c'est le roi du ciel, c'est le cas de le dire, puisque le bénéfice était triplé au premier trimestre 2022 à 1,22 milliard d'euros, plus 15%. Et surtout, l'avionneur va augmenter encore une fois ses cadences de production, notamment pour la 300, Thomas Schnell.
Fort d'un premier trimestre solide, Airbus affiche de grandes ambitions pour sa famille A320. Jusqu'à 75 appareils produits chaque mois contre 45 aujourd'hui, du jamais vu pour son monocouloir vedette. L'avionneur confirme ses objectifs, il va quasiment doubler sa cadence d'ici à 2025. Sur les trois premiers mois de l'année 2022, Airbus a livré 142 avions commerciaux contre 125 sur la même période l'an dernier. Solide performance également sur les hélicoptères et la défense, mais le groupe reste attentif à l'évolution de la situation géopolitique. Les sanctions contre la Russie ont particulièrement touché le secteur aéronautique. Les restrictions zéro Covid en Chine pourraient bien aussi pénaliser Airbus. Dernier sujet de préoccupation, l'emploi. Il y a 15 000 postes à pourvoir cette année dans le groupe, dont des profils rares liés à l'hydrogène. Seule ombre au tableau, Airbus retarde d'un an la sortie de l'A321 XLR. La mise en service du très long courrier devrait avoir lieu début 2024 au lieu de fin 2023.
Et le patron d'Airbus, Guillaume Faury, sera avec nous demain matin sur ce plateau à 8h15. Patron du GIFAS aussi, de l'ensemble de l'industriel de l'aéronautique.
Et on termine avec Anthony Morel et une fronde des actionnaires plutôt étonnante, des actionnaires de Netflix. Une action en justice vient d'être lancée par des investisseurs qui reprochent à l'entreprise de lui avoir caché des informations stratégique alors qu'elle est en train de perdre des abonnés. Ça a du mal à passer. C'est quand même assez étonnant.
Ah oui, bah en tout cas, ils voient rouge, ces actionnaires. Rouge comme le titre Netflix qui a quand même perdu près de 70% de sa valeur en l'espace de 6 mois. Et ce que ces investisseurs reprochent aux dirigeants de Netflix, c'est d'avoir menti par omission, de leur avoir caché des informations défavorables sur la situation de l'entreprise, sur ses perspectives. Et ça les a complètement surpris, ça les a pris, saisis à froid, la publication des résultats il y a 15 jours qui ont été catastrophiques, vous vous en souvenez. Netflix qui annonce pour la première fois de son histoire qu'il perd des abonnés, moins de 100 000. Ce sera pire probablement au trimestre prochain. Et ça, ça les a un petit peu étonnés. Il y a un point en particulier qui a du mal à passer, c'est l'ampleur du nombre de passagers clandestins. Netflix a dit on a 100 millions de personnes qui ne payent pas d'abonnement, qui s'incrustent entre guillemets sur l'abonnement en utilisant le compte et le mot de passe d'autres utilisateurs. Et ça, ce que disent les investisseurs, c'est que Netflix a un peu sorti cette explication de son chapeau pour expliquer ses mauvais résultats, comme si le problème était apparu par magie lors du dernier trimestre, alors que c'est probablement beaucoup plus structurel que ça. Tout ça, ça ne leur a pas plu du tout. Netflix a annoncé des mesures pour redresser la barre, faire la chasse aux abonnés fantômes, proposer de nouveaux types d'abonnements avec de la publicité, donc revoir son modèle économique, mais ça ne les a pas convaincus non plus. Est-ce que ce sont juste des mauvais pertes ou est-ce que ils ont raison finalement de dire que Netflix leur a menti? C'est un tribunal californien qui en décidera. La plainte demande des dommages compensatoires dont les montants n'ont pas encore été spécifiés.
Et donc les cours de bourse ne montent pas jusqu'au ciel?
C'est fou, on peut perdre de l'argent en investissant
non,
en bourse.
C'est vrai?
Enfin, vraiment, prenez-en conscience avant d'investir parce que
la
c'est
découverte.
Important. C'est un élément important à prendre en compte.
Merci Anthony Morel.